France Info.
Bienvenue à tous sur France Info. Les informés autour de moi, Antoine Boulet, bonsoir.
Bonsoir.
Membre de l'agence de communication Havas, Alexis Poulain, bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondateur du site d'information Le Monde Moderne. Et puis Jean-Michel Ribes, bonsoir.
Bonsoir.
Auteur, metteur en scène et directeur du théâtre du Rond-Point. On évoquera dans la première partie des informés la situation de ces migrants qui ont attendu presque une semaine en mer avant d'être accueillis en Italie. C'est suffisamment rare pour être signalé. Matteo Salvini a accepté de faire entrer le bateau à condition que l'Europe s'engage à répartir ces migrants. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Le gouvernement italien a-t-il raison d'agir de la sorte, de faire plier Bruxelles ? Nous en débattrons. On viendra également sur la disparition de Steve Maiacanisso, ce jeune homme mort noyé dans la Loire, et les conséquences sur l'avenir de Christophe Castaner, mais aussi sur les méthodes de la police, du maintien de l'ordre en général, question déjà débattue lors des manifestations des Gilets jaunes. On parlera des compteurs Linky, la justice demande le retrait de 13 compteurs à Tours en Indre-et-Loire, et puis du sport avec l'affaire Caster Semenya, cette athlète sud-africaine quasi imbattable sur le 800 mètres et qui ne participera pas aux prochains mondiaux à cause de son androgynie. Soyez les bienvenus parmi les informés, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est donc la fin d'un long calvaire et sans doute le début d'un autre pour ces 116 migrants du Gregoretti, ce navire de garde-côtes italien bloqué pendant plusieurs jours. Ces migrants ont été secourus au large de Malte jeudi dernier, mais Matteo Salvini a immédiatement ordonné aux garde-côtes de rester en mer en attendant un accord européen pour la répartition de ces personnes. Chose faite, 5 pays européens, dont la France, se sont engagés à accueillir ces réfugiés. Le boulot est fait, mission accomplie, s'est réjoui Matteo Salvini sur Twitter, le ministre de l'Intérieur italien. Il a raison, Antoine Boulet.
Eh bien, étonnamment, je ne partage pas habituellement les options politiques de Matteo Salvini, mais je pense qu'il a raison, en ce sens qu'on ne peut pas laisser l'Italie, la Grèce, l'Espagne, Malte, tous les petits pays d'Europe du Sud et de la Méditerranée, affronter seuls cette question des migrants. Premièrement, je trouve qu'il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que la vague très importante postérieure aux événements de Syrie s'est tarie. Donc aujourd'hui, elle s'est tarie en grande partie, je veux dire. Donc aujourd'hui, le nombre, l'afflux important, puisqu'on parle d'un million de personnes qui sont arrivées en Europe et que Angela Merkel, et c'est à son honneur et l'honneur de l'Allemagne qu'elle a sauvé, se faisant l'honneur de l'Europe, aujourd'hui ce nombre est beaucoup moins important. Et nos sociétés européennes développées peuvent parfaitement accueillir les quelques milliers de personnes dont on parle, premièrement. Deuxièmement, en revanche, ce règlement de Dublin qui est absurde, qui dit que c'est là où les migrants arrivent qu'ils doivent être accueillis, doit être réformé.
Et ça, règlement c'est contesté par l'Italie, d'ailleurs.
Non, mais là, enfin, oui, le règlement est contesté par l'Italie, absolument. Mais de ce point de vue, il me semble qu'il a raison. C'est comme si on disait toute la pauvreté qui arrive à Marseille doit rester à Marseille. Soit nous sommes en quelque sorte une nation d'Europe, soit, alors, de manière amusante, je trouve que Matteo Salvini, d'un certain point de vue, est contradictoire parce que sa position, c'est une position qui demande plus d'Europe, au fond, qui lutte contre les
égoïsmes européens. Est devenu
donc l'anti-européen, quand ça l'arrange, est pro-européen. Pour autant, sur le fond, il a raison. Et par ailleurs, je trouve qu'il ne faut jamais oublier dans ces domaines ce calvaire, comme vous le disiez, de ces familles, de ces femmes, de ces enfants. On parlait de femmes enceintes, de malades.
Oui. Calvaire qui n'est pas terminé.
Où est notre
pas
humanité dans ces moments-là.
Oui. Alexis Poulain. Jean-Michel Ribes, vous voulez réagir ?
Non, je suis pas entièrement d'accord. Je trouve que Salvini est un habile politique qui, sur le dos des migrants, fait sa petite politique. Et ce n'est pas du tout un acte humanitaire. Vous savez, cette histoire de migrants et tout ça, moi, je ne la comprends pas. Que tout le monde fasse de la politique, il faut pas, attention, on peut pas, on peut. Nous sommes dans un pays monde. C'est des humains. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Cette politique aérie autour de ça, me semble.
Est-ce que l'Italie doit supporter tout l'accueil des migrants?
Mais le problème n'est pas que l'Italie supporte ou supporte pas. Le problème est que ces gens doivent être sauvés. Quand ils arrivent en Italie, on doit les sauver après que M. Salvini nous fasse des grands discours de moralité sur on peut admettre ou pas admettre. C'est pas bien. Je trouve que Merkel avait été bien. Il y a un moment où la politique ne peut pas être mêlée à l'humanitaire. Il y a quelque chose. Enfin, cette jeune capitaine danoise a été un honneur, je trouve. Pour les gens humains. Et je trouve que ce côté, il a raison, il a pas. C'est une ordure, Salvini, simplement une ordure, qui fait de la politique maintenant sur le dos des migrants en disant, voyez, je veux bien les sauver, mais à condition que, et il fait la loi en Europe. Non, je trouve que il y a une chose qui n'est pas discutable, quand il y a des familles qui meurent noyées, quand il y a des femmes qui accouchent sur des bâtons en caoutchouc, quand il y a des gens qui meurent comme ça. Je veux dire, quand on s'esclave parce que le mauvais traitement des animaux, les végans, etc., ils devraient aussi s'occuper un tout petit peu de ce qui est inadmissible, c'est-à-dire de laisser mourir des gens en Méditerranée, quelles que soient les raisons économiques des pays qui peuvent les accueillir ou pas.
Alexis Poulain, on doit oublier la politique ?
Non, je pense que c'est... Alors oui, Salvini fait une politique politicienne, mais c'est pas la seule ordure dans l'affaire. Parce qu'on se gargarise de nos valeurs européennes, mais la politique migratoire européenne n'existe pas. Jusqu'à présent, c'est de mettre les migrants le plus loin possible. On a fait de la sous-traitance avec la Turquie, qui prend plusieurs milliards d'euros par an pour fermer les frontières, et c'est elle qui prend la majorité du flux migratoire. Et puis on travaille avec les gardes-côtes libyens pour faire en sorte que les bateaux s'échouent le plus loin possible. Il y a 15 jours, c'est 100 personnes qui sont mortes. On n'en a pas fait les gros titres. Et c'est des milliers de morts dans la Méditerranée, là où en ce moment beaucoup de vacanciers sont en train de se baigner. Mais comme c'est loin des côtes, on fait comme si ça n'existait pas. Parce que c'est ça la politique migratoire de l'Europe, c'est qu'ils meurent le plus loin possible. Il n'y a pas de politique d'accueil. Il faut pas se leurrer. En Libye, il n'y a pas d'État. C'est un État mafia et c'est les mafias qui font le pouvoir. Vous avez des camps de torture qui sont là, vous avez des filières où trafiquer des humains rapporte plus que trafiquer de la drogue. Et l'Europe ne lutte pas contre les mafias. L'Europe n'a pas de stratégie migratoire. Alors qu'on fasse.
C'est-à-dire que l'Europe ferme les yeux et se félicite.
Bien sûr, mais pire encore, l'Europe fait en sorte que la frontière soit plus loin. Et cette Mare Nostrum, qui était au cœur de l'Empire romain, on l'a fermée, on fait en sorte que la frontière s'est éloignée. Or, ce qu'il y a en face, si vous visitez les pays du bord de la Méditerranée, eh bien, c'est nous, c'est les mêmes vestiges romains, c'est la même culture, et ils sont venus. Et que ce soit l'islam, la chrétienté, les religions de Rome, tout ça fait un monde. On a fermé la Méditerranée volontairement, on a tué l'Europe aussi, parce qu'on lui a empêché de vivre sur sa jambe du Sud. Et ça, rien n'est fait pour changer cette politique. Bien au contraire. Alors qu'on se gargarise, qu'on soit content parce qu'on accueille 100 migrants qui sont sur un bateau en disant.
Et on communique là-dessus. En tout cas, les dirigeants européens communiquent énormément là-dessus.
Stop. Qu'on fasse une vraie politique d'accueil et une politique aussi pour développer, aider le développement de ces pays qui ne demandent que ça.
Justement, on va rebondir sur ce que vous dites, Alexis Poulain, avec la réaction de Médecins sans frontières. Ce sera juste après les titres. Il est 20h10, c'est avec Sozic Bourg.
Des grenades lacrymogènes lancées sur les manifestants qui venaient rendre hommage à Steve à Toulouse. Ils ont été obligés de rebrousser chemin. Plusieurs centaines de personnes rassemblées deux jours après la découverte du corps du jeune homme dans la Loire. Un autre rassemblement doit avoir lieu samedi à Nantes. Un corps brûlé retrouvé par des promeneurs dans un champ à Soues, près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Il s'agirait d'un homme. Une enquête a été ouverte. Des analyses ADN vont être pratiquées. Christophe Castaner dans le Gard. Le ministre de l'Intérieur venu constater les dégâts de l'incendie de Générac au sud de Nîmes. 500 hectares de végétation partis en fumée, un bilan catastrophique selon lui. Il a également annoncé la commande de 6 avions bombardiers d'eau. Des incendies également en Russie, le pays touché par de gigantesques feux de forêt, des millions d'hectares ravagés en Sibérie. Vladimir Poutine a demandé à l'armée d'intervenir. C'est la première fois en 11 ans la Fed baisse les taux d'intérêt d'un quart de point pour s'établir dans la fourchette de 2 à 2,5%. Transavia prend son envol. Le syndicat des pilotes donne son feu vert pour développer la filiale low cost d'Air France KLM. Un accord a été trouvé avec la direction du groupe sans limitation du nombre d'avions. Et puis la FIFA dévoile sa liste pour le titre de meilleur joueur de la saison. Un seul Français parmi la sélection, Kylian Mbappé. Les vainqueurs seront connus le 23 septembre.
France Info. 20h, 21h. Les informés. Romain Desec.
Et on va poursuivre notre échange sur ces migrants qui ont pu arriver en Italie. Ils vont être répartis entre 5 pays européens. Un événement qui intervient quelques jours après un accord trouvé pas plus tard que la semaine dernière lors d'un sommet entre les chefs d'État européens. La politique de l'Union qui n'a pas changé sur ces migrants et il n'y a plus de solidarité. C'est ce qu'estime le porte-parole de Médecins sans frontières, François Dumont. On l'écoute.
Aujourd'hui, on n'a pas encore vu sur le terrain une implémentation concrète de ces décisions, de ces annonces publiques. Au contraire, ce qu'on voit, c'est la France, en premier lieu, mais aussi les autres pays européens qui continuent de financer et de soutenir la politique de renvoi en Libye des personnes à travers les gardes-côtes libyens. Donc les personnes aujourd'hui qui essaient de fuir la Libye continuent d'être interceptées en mer dans les eaux internationales et renvoyées vers l'enfer libyen dans un système qui est soutenu et financé par l'Union européenne.
Antoine Boulet, c'est la première traduction concrète des échanges qu'il y a eu la semaine dernière entre les chefs d'État européens ?
D'abord, c'est vrai, et c'est un accord à minima entre un certain nombre de pays européens. Il y a 8 de ces pays qui ont été révélés, 6 dont le nom n'a pas été révélé. Donc, c'est vraiment l'Europe à deux vitesses et à minima. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas non plus totalement méconnaître la demande d'une large partie des populations des pays d'Europe pour un meilleur contrôle. Je ne dis pas qu'elles ont raison. Je dis simplement que les gouvernements au pouvoir ne peuvent pas ignorer cette réalité.
Il faut les prendre en compte.
Et donc, enfin, il faut.
C'est ce que fait Matteo Salvini.
En tout cas, Matteo Salvini le fait, comme l'a dit très justement Jean-Michel Ribes, avec un cynisme achevé. Pour autant, je maintiens qu'on ne peut pas, et l'Europe et les pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui sera bientôt parti, mais ne peuvent pas faire reposer exclusivement sur les pays du Sud l'accueil de ces populations. C'est assez simple.
Jean-Michel Ribes.
Oui, non, je suis d'accord. Chacun doit prendre sa part. Le problème, il n'est pas là. Le problème est qu'on fait on est en train, comme si on était des commerçants, vous prendrez combien du camembert et vous en laisserez à l'autre, etc.
Malheureusement, c'est pas la seule solution?
Non, la seule solution, c'est pas ça. La seule solution, je suis d'accord, c'est peut-être regarder peut-être vers ces pays que tous ces gens fuient et qui sont abominablement souvent dirigés par des dictateurs infâmes qui font de l'esclavage, etc. De remettre un peu d'ordre là-dedans avec des pressions économiques.
Mais ça ne se règle pas en quelques jours, quelques semaines. Là, on a une solution d'urgence, par exemple.
La solution d'urgence, c'est d'accueillir les gens. Quand quelqu'un se noie, vous n'allez pas lui dire continuez à nager, buvez la tasse, nous on va faire des trucs économiques. Ça évidemment qu'il faut sauver tout le monde, je dis bien tout le monde, sans analyse politique, économique, ça. Faut sauver les gens qui se noient. C'est un acte d'humain, d'être humain. C'est même plus politique, c'est humain. Pour le reste, oui, c'est vrai qu'on devrait je suis pas à la place de tous ces gens, mais c'est vrai qu'on se demande à un moment si on veut pas aider ces gens à rester peut-être plus proches de leur famille, de leur pays et ne pas fuir. Pour le reste, je suis désolé, on n'est pas envahi par Gengis Khan, on n'est pas envahi par des troupes monstrueuses qui vont défigurer l'Europe et faire la théorie du remplacement. On est face à quelques pauvres familles R qui nagent dans l'espoir d'aller vers les rives d'une vie meilleure, et on dit attention, combien en prend l'Allemagne et vous vous en prenez combien et vous ceci, cela. C'est lamentable.
Alexis Poulain, est-ce qu'il faut une règle immuable pour un quota de répartition entre chaque pays de l'Union?
C'est pas un quota. Il y a d'abord à avoir une solidarité européenne parce que les pays frontières n'ont pas les mêmes problématiques que les autres. Et ça vaut pour les pays de l'Est. Hein. Le groupe de Visegrad aussi a les mêmes problématiques. Donc il faut aussi entendre les problématiques de ces pays frontières. Et puis, pour moi, c'est essentiel. Le gros de la pression migratoire, les migrations sont d'abord des migrations régionales. Vous allez voir, c'est d'abord en Jordanie que vous aurez le plus de monde, c'est en Turquie, comme j'ai dit, parce qu'elle est payée par l'Union européenne.
Et on a tendance à l'occuper parce qu'elle est loin de chez nous.
Mais évidemment, l'idée c'est, tout ça se passe très loin, mais est-ce qu'on aide suffisamment ces pays à se reconstruire? Est-ce qu'on aide suffisamment ces pays aussi à se développer? Je n'ai pas l'impression. Enfin, quand vous avez des jeunes qui sont prêts à risquer leur vie pour passer la Méditerranée parce qu'il n'y a pas d'avenir pour eux dans leur pays de naissance, on a un grave problème. Et ça va ne faire qu'empirer avec la crise climatique. Enfin, il ne faut pas fermer les yeux. Ce problème migratoire, il existe depuis 20 ans. L'Europe passe son temps à faire des sommets d'urgence, des sommets de la dernière chance. Mmh. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Hein,
on répond au coup par coup, européenne. sans vraiment avoir de réponse de fond.
Jamais, parce que quoi? Le Conseil de l'Europe, les gouvernements, les pays décident sciemment de ne pas se mettre d'accord. Et vous avez la Commission européenne qui, là, elle, essaye de trouver justement cette problématique de quotas, d'avoir une aide au développement et ce genre de choses. Mais chaque pays a son précaré. La France-Afrique, l'Afrique pour les Britanniques. Enfin, chacun a sa sphère d'influence, ne souhaite pas la perdre. Et vous n'avez pas de politique européenne par rapport à ça, pas de solidarité. Et derrière, on se retrouve toujours avec cette même petite musique qui est « Ah oui, alors c'est l'urgence, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est pas l'urgence, ça fait 20 ans qu'on est confronté à cette crise migratoire. Elle ne va faire qu'empirer.
Il faut que ces gens un jour se disent que dans quelques années, s'il y a encore des humains dans quelques années, quand on va regarder ça, les gens vont être sidérés. C'est le Moyen-Âge. La civilisation recule, les grandes idées, les valeurs reculent. Quand on va regarder les discussions pour savoir s'il faut accueillir ou pas accueillir des gens qui sont en train de se noyer, c'est grotesque.
L'histoire nous jugera.
Oui, et j'espère que non seulement elle nous jugera, mais au moment où elle nous jugera, elle aura résolu ses problèmes.
Antoine Boulet, ça dit quoi de l'Union européenne? C'est un problème important, les problèmes de migration aujourd'hui. Ça dit quoi des négociations ou de la cohérence de l'Union européenne?
D'abord, il faut le redire, je pense qu'on dit tous les trois la même chose. Aujourd'hui, en termes de nombre, Une fois encore, il faut distinguer la période de la crise syrienne, où l'afflux était massif, et accueillir 1 million sur une population quand même de plus de 300 millions d'habitants. Donc, faut pas non plus.
C'est
enfin,
relatif.
C'est malgré tout une part importante, et il fallait s'organiser. C'est pas une question. L'humanité et les sentiments d'humanité très forts et la fraternité ne doivent pas s'empêcher de s'organiser. Parce qu'après, il faut bien mettre en œuvre les choses. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces nombres-là. Plus du tout. Et donc, aujourd'hui, les sociétés occidentales, européennes, une fois encore, sont pleinement capables d'accueillir les quelques dizaines de milliers de personnes dont on parle, premièrement. En revanche, je crois qu'il faut aussi avoir le souci pour nos compatriotes, parce que les gens qui sont dans des quartiers, et en particulier en France, pardonnez-moi, il y a la ghettoisation, l'assignation, en quelque sorte, à résidence d'un certain nombre, d'une concentration de population, qui rend difficile pour certains de nos concitoyens, parce qu'ils ont cette impression que leur environnement change très vite, que il y a une polémique récente sur les kebabs, que là où il y avait...
Une perte de repères.
Est-ce que il faut, je dirais, la respecter? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, et le politique ne le fait pas, ne doit ni instrumentaliser cette situation de perturbation, de nouveauté, ni inversement la moraliser à l'excès. Et donc la responsabilité que l'Europe, mais que les gouvernements ont, c'est précisément aussi de gérer l'accueil et l'encadrement sur place.
Ça veut dire être
pragmatique. Pour autant, je dis juste une chose, c'est que nos concitoyens et ceux qui se disent peut-être il faut pas être trop moralisateur, doivent se rendre compte de la réalité concrète de ces personnes. Est-ce que je peux inviter les auditeurs à aller sur le net voir le reportage de Cécile Allegra sur la politique de viol organisé en Libye, des migrants.
Elle était invitée sur Le Monde Moderne, d'ailleurs, je l'avais interviewée sur son...
Donc il faut se rendre compte de la réalité que vivent ces gens et penser que ce voisin qui me dérange, qui est différent, qui chante, qui cuisine sur le trottoir, il a vécu ça.
C'est pas nouveau, le phénomène migratoire, il est banal. Si vous écoutez les chercheurs qui travaillent sur ce phénomène, il est, historiquement, ça a toujours été la même chose. On a toujours eu d'ailleurs les mêmes mots. Quand c'était les Italiens, les Portugais qui arrivaient à Marseille, c'était pareil. Ils amenaient leur culture, jamais ils ne s'intégreraient, etc. Regardez où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est banal.
Et ça a toujours existé.
Bien sûr. Et aujourd'hui, on veut en faire une grande peur avec cette théorie du grand remplacement. Enfin, je suis désolé, il n'y a pas un bureau du grand remplacement.
La différence, c'est aussi qu'on a fait venir certaines populations.
Et on a fait venir des populations, bien sûr. Mais parce que c'est les restes d'empire, j'en parlais tout à l'heure. Le fait qu'on a encore une pensée france-africaine, un empire qui reste là, et qui est simplement un empire maintenant de connivence. Parce que ces pays-là, eh bien, on en a fait ce qu'on en a fait. Et leur indépendance a coûté cher, mais sont-ils encore indépendants? Quand on voit les scandales avec Areva...
Je vous partage pas. Les populations locales ont aussi leur responsabilité de se prendre en main. Et quand on intervient, comme en Libye, les résultats sont catastrophiques, ou en Irak. Donc c'est
au-delà
de
l'intervention,
l'Europe n'est pas coupable de tous les crimes.
Mais je ne dis pas l'Europe, je parle de la France. Je parle de la France et de la gestion de la décolonisation.
Non, ça c'est moral, inutile.
Je pense qu'on peut avoir un autre débat
sur la décolonisation, effectivement. En attendant, on va s'intéresser à un autre sujet qui est au cœur de l'actualité, c'est la disparition de Steve Maya Caniço. On y vient juste après l'info, il est 20h20, Soisigbourg.
La surface brûlée en France est déjà supérieure à la totalité de l'année 2018, affirmation de Christophe Castaner en visite dans le Gard tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la commande de 6 avions bombardiers d'eau. L'incendie de Générac est fixé mais pas encore éteint. Les pompiers sont toujours sur place. 500 hectares de végétation sont partis en fumée. Des restrictions d'eau renforcées dans la Nièvre. La moitié des bassins versants sont désormais placés en seuil de crise. 80 départements sont en alerte sécheresse sur tout le territoire. 3 personnes soupçonnées de préparer des actions violentes mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elles ont été emprisonnées. On ne sait pas quelle cible était visée. Les 131 migrants bloqués à bord du navire des gardes-côtes italiens depuis une semaine n'ont pu débarquer grâce à un accord passé entre 5 États membres de l'Union européenne. La France en accueillera 30. L'Allemagne ne veut pas d'une escalade militaire et continuera à compter sur la diplomatie dans la crise iranienne. Berlin ne participera pas à la mission de protection dans le détroit d'Ormuz, comme le lui avait demandé Washington. La stratégie de pression maximale est erronée, estime le ministre allemand des Affaires étrangères. Et puis si vous partez en vacances samedi, il va falloir prendre votre mal en patience. Traditionnelle chasse et croisée entre les juilletistes et les aoussiens. Journée classée noire dans le sens des départs par bison futé.
France Info. 20h-21h, les informés, Romain Desec.
À 2 jours après la découverte du corps de Steve Maya Caniço dans la Loire à Nantes, le Premier ministre s'est donc exprimé sur cette affaire qui provoque un certain émoi. Il réaffirme son soutien au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est aujourd'hui en première ligne, critiqué par l'opposition. Alors est-ce qu'il est fragilisé par cette affaire? Eh bien écoutez, la réponse du Premier ministre.
Je peux vous dire que le Premier ministre que je suis apporte évidemment tout son soutien à Christophe Castaner, que j'ai pleinement confiance en lui et que nous sommes mobilisés à la tâche pour n'accuser personne et ne dédouaner personne. Ce que nous souhaitons, c'est que la transparence soit faite, que les faits soient établis et que les responsabilités soient tirées.
Alors Antoine Boulay, je m'adresse à vous, le communicant. Comment faut-il interpréter les propos d'Édouard Philippe ?
Ces propos, du strict point de vue de la communication, même si s'agissant d'un mort, d'un jeune homme mort le soir de la fête de la musique, la communication, me semble-t-il, devrait venir en second. Mais pour autant, puisque vous me posez la question, il me semble que cette précipitation à affirmer son soutien au ministre de l'Intérieur est inutile, contre-productive, elle est même, à certains égards, indigne. En tous les cas, elle sera perçue comme telle par l'opinion. Parce que le sujet n'est pas de soutenir un ministre, c'est pas ça le sujet. Et ce qui est très étonnant, c'est que autant sur l'affaire de Rugy, on a eu l'impression que j'ai trouvé, pour ma part, un peu excessive sur les crimes dont on l'accusait. Mais en tout cas, le sujet a été réglé très rapidement. Là, on a une crise beaucoup plus grave et le gouvernement est en train de s'enferrer. Que dans une situation concrète, où il y a une accumulation de faits, sans doute du non-barriérage en bord d'un cours d'eau, d'une intervention légèrement inadaptée, mais si cette intervention avait eu lieu dans un autre lieu, peut-être il n'y aurait pas eu de mort. Bon, qu'il y ait des erreurs qui aient été commises, c'est une chose, mais au début, ce n'est pas une affaire d'État, c'est une intervention sans doute excessive dans un contexte pas assez sécurisé. Ça, c'est pas une affaire d'État. Mais si on en vient à justifier ce qui paraît comme l'injustifiable, à se précipiter, là, je parle en termes de communication, quelle est l'urgence? Quelle urgence de s'exprimer? Voilà. Et je voudrais citer les mots du préfet Grimaud. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même, écrivait-il aux policiers en 1968, en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent se venger. Cette escalade n'a pas de limite. Le préfet Grimaud a théorisé, il a écrit après d'autres choses là-dessus. Aujourd'hui, on n'en tient pas compte. C'est vraiment un gâchis lamentable.
Alexis Poulain.
Oui, c'est indigne, je crois que le mot a été dit. Ce ministre Christophe Castaner est critiqué depuis longtemps par la façon dont il a géré la crise des Gilets jaunes. Ce nombre de blessés n'est pas normal. Et là, on voudrait aussi
faire... Il y avait l'affaire de la Pitié-Salpêtrière aussi.
Mais vous avez Zineb Redouane, cette octogénaire marseillaise aussi, qui est morte à son balcon par un jet de grenade qu'on a essayé de couvrir. L'enquête a été d'ailleurs dépaysée et une contre-expertise en Algérie a montré que c'était bien la grenade qui l'avait tué. Enfin, c'est incroyable. Des procureurs sont prêts à mentir aussi pour ne pas remettre en cause la parole présidentielle.
Référence à l'affaire Denis et Geneviève Leguet.
Bien sûr. Et là, vous avez un mort, un jeune homme de 24 ans qui faisait la fête, un soir d'ailleurs, de fête nationale. Donc, il ne s'agit pas d'un trouble à l'ordre public. Si vous connaissez les quais de Loire, il n'y a pas de résidents, il n'y a pas de riverains, il n'y a rien. Cette fête...
C'est un endroit dédié à la fête avec
bien
que
sûr,
des bars
et
des
cette fête pouvait finir à 7h, 9h du matin. Enfin, comme se font souvent ces soirées électro qui finissent tard. Pourquoi vouloir absolument éteindre à 4h du matin les machines? Et pourquoi dire que c'était un trouble à l'ordre public? Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jets de bière et parce qu'un DJ décide de mettre Porcherie, des Berruyers Noirs, les policiers répliquent avec des lacrymogènes, des chiens, des LBD, des tasers. C'est pas proportionné. On ne peut pas entendre le Premier ministre dire que c'est une intervention qui était bornée et qu'il n'y a pas de lien entre cette intervention et la disparition de Steve Canisso. C'est inentendable. Sachez bien que sans intervention, Steve Canisso serait encore vivant, il pourrait encore faire du théâtre, il serait encore avec les enfants à partager sa passion.
Il est trop
avec
tôt pour le dire. Ça, je partage pas votre
avis. On attendra les conclusions de l'enquête. Jean-Michel Ribes, il y a d'ores et déjà une faute selon vous des autorités?
C'est pas moi ce qui me frappe, c'est que derrière tout ça, derrière tous ces comportements, il y en a plein, Benalla, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une peur permanente du gouvernement. C'est-à-dire qu'il surréagit comme s'il était déjà attaqué. Il y a une peur. Je suis d'accord avec les boulettes, c'est-à-dire que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il y a une affaire, on la traite, il n'y a pas besoin déjà de dire attention, mon ministre est formidable, sa cousine aussi, etc. Non, ce que je veux dire simplement...
Parce que la police, l'utilisation de la violence est remise en cause.
Oui, mais la police,
c'est pour ça
qu'il y a
une réponse.
Mais je veux dire que je crois que un peu plus de, comme ça, d'apaisement, un peu plus de tranquillité, un peu plus de réponse apaisée montrerait que peut-être les choses peuvent arriver à une clarification plus qui ne panique pas les gens, qui les rassure. Moi, je trouve que partout il y a la peur. Nos forces sont formidables, nos flics sont formidables, sûrement, mais d'accord, mais parlons tranquillement, il y en a qui sont bien, il y a des crétins partout, on le sait, sauf ici aux informés, mais je veux dire que en dehors de ça, voilà, le monde n'est pas parfait, les policiers ne sont pas parfaits, les politiques non plus. Ah ben, mais il y a une peur. Je trouve qu'il y a une peur dans la surréaction de ce gouvernement en permanence.
Alexis, je crois que c'est urgent aussi de renouer le dialogue et la confiance entre les populations et les forces de police.
Mais pour renouer la confiance, il faut simplement arrêter d'être terrorisé, d'être défaire du contre.
Il faut arrêter de couvrir les actes violents, et ce que disait le préfet Grimaud. C'est-à-dire qu'on a ces enquêtes de l'IGPN qui n'aboutissent pas parce que les policiers sont masqués, qu'ils cachent leur matricule. Comment cela est-ce possible? Vous avez des pères qui demandent qui a arraché l'œil de mon gosse. On n'a pas la réponse parce que le policier était masqué, on ne sait pas qui c'est. Ce déni de justice rend les gens désespérés, rend les gens violents, et c'est exactement ce que disait ce préfet. Et on ne peut pas continuer comme ça de couvrir ces dérives sous prétexte qu'il faut absolument sauver la police qui est la colonne vertébrale.
Il y a un malaise avec la police aujourd'hui ?
Non, je pense que la police, elle fait un sale boulot. C'est trop facile de dire que la police est le coupable idéal. Les policiers, ils sont toujours en première ligne. Ils sont crevés, ils ont des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Allez dans un commissariat, allez voir l'état des commissariats. Ils en peuvent plus. Il y a des suicides. Regardez le nombre de suicides. Non, mais en tant que ministre, Christophe Castaner aussi a à répondre de ces suicides, de la façon dont sont traités les policiers. Il ne le fait pas. Et donc, pour cacher son inaction par rapport à toutes ces actions, eh bien, il est laxiste. Il laisse faire simplement les éléments les plus violents sans les punir. Or, quelle est la réponse à ça ? Eh bien, c'est une défiance des populations vis-à-vis des policiers. Ça existait déjà dans les quartiers sensibles. Maintenant, ça s'est répandu bien plus loin dans la société française.
Pour autant, dans le cas de Steve, je pense qu'il faut attendre les faits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous prétexte qu'on est un peu anti-policier, dire que c'est la police, et sous prétexte qu'on est au contraire pour le gouvernement, pour l'État, dire que c'est pas la police. Voilà, il faut attendre les faits. Il
n'est pas mort
sous les coups. Ce que peut dire, a priori, c'est qu'il n'est pas mort sous les coups de policiers. Il est mort noyé. Ça, c'est un fait.
On va poursuivre cette discussion autour de ce drame et aussi de l'usage du maintien de l'ordre dans quelques minutes.
France Info Météo avec le CIC. Banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Le temps, Sébastien Lierse.
Une dégradation orageuse va se mettre en place en fin de nuit sur le sud-ouest. Les pluies seront plus marquées demain matin en touchant le sud de la Garonne. Progressivement, ces averses et ces orages se décaleront vers Midi-Pyrénées, puis le sud du Massif central. L'Aquitaine retrouvera alors un temps plus clément, mais une nouvelle ligne d'averses orageuses va arriver en fin de journée par l'Atlantique. Sur le reste du pays, la journée s'annonce plus calme, avec un soleil généreux, surtout en matinée. Le ciel sera plus variable sur le nord-ouest, avec des nuages plus nombreux. Progressivement, les éclaircies vont quand même s'affirmer et sur les plages le ciel deviendra même dégagé l'après-midi. Les températures maximales seront en légère hausse, variant entre 21 et 29 degrés sur la majeure partie du pays et encore 27 à 35 degrés autour de la Méditerranée.
Soyez les bienvenus sur France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Solène Cressant de retour pour l'info.
Tous à Nantes pour Steve. De nombreux appels diffusés sur les réseaux sociaux appellent à rendre hommage à Steve Canisso samedi dans le centre-ville de Nantes. Le corps de l'homme a bien été retrouvé dans la Loire lundi soir. Il avait disparu après une intervention controversée de la police le soir de la fête de la musique. La préfecture de Loire-Atlantique n'a pour l'instant reçu aucune déclaration de manifestation. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce soir à Toulouse, cette fois en hommage à Steve, mais aussi pour dénoncer les violences policières. Le gouvernement est engagé à faire toute la transparence et répondre à toutes les questions, assure le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Alors que les proches de Steve Canisso et l'opposition critiquent le rapport de l'IGPN, la police des polices, qui dédouane les policiers dans cette affaire. Une enquête ouverte à Roanne dans la Loire sur ces 6 jeunes victimes de cigarettes trafiquées. Des cigarettes qui contenaient une drogue 400 fois plus puissante que le cannabis. Les personnes qui leur ont donné ont profité de leur léthargie pour leur faire les poches. Des analyses sont en cours pour connaître le composé de cette drogue donc très puissante. Il s'agira en tout cas des mêmes auteurs pour le procureur de Roanne, Abdelkrim Grini.
Le modus operandi est exactement le même à chaque fois. Donc on peut partir du postulat qu'il s'agirait très vraisemblablement des mêmes auteurs, entre 2 et 4 personnes selon les moments où sont commis les infractions. Mais le modus operandi, le mode opératoire est à chaque fois le même, identique. Des jeunes qui prennent attache avec des jeunes, qui commencent à discuter. Un petit climat de confiance s'instaure et puis on partage une cigarette qu'on vient de rouler. Et tout de suite après avoir fumé ces cigarettes, elles vont se retrouver dans un état extrêmement particulier, un état second. Soit un état d'excitation, soit au contraire un état de léthargie, pour ne pas dire même un état quasi comateux. Et les jeunes gens qui ont proposé donc les cigarettes en profiteront pour les dépouiller, pour leur prendre notamment tous les effets personnels qu'elles avaient sur elles, téléphone portable, quelques monnaies, etc.
Le procureur de la République de Rouen, Abdelkrim Grini. L'incendie de Générac dans le Gard est fixé, mais toujours pas éteint. 380 pompiers restent mobilisés au sud de Nîmes avec de gros moyens et ils comptent surveiller la zone toute la nuit prochaine. Près de 500 hectares de végétation ont été détruits. En tout, le feu s'est déclaré hier après-midi. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en visite à Générac, parle d'un bilan agricole catastrophique. Il n'y a pas eu de maison abîmée ni de blessés, sauf un pompier légèrement brûlé. En Russie, ce sont des millions d'hectares qui sont détruits par les flammes depuis plusieurs semaines en Sibérie. Vladimir Poutine vient d'ordonner à l'armée d'intervenir. Les organisations de défense de l'environnement s'inquiètent du manque de réaction des autorités russes alors que ces incendies pourraient accélérer la fonte des glaces. Et puis le trafic des TER est perturbé ce soir entre Rennes et Saint-Brieuc après l'agression d'un agent par trois voyageurs en gare de la Bohinière. L'agent a dû être pris en charge par les pompiers. Il a été frappé au visage. La SNCF annonce qu'elle va porter plainte. Il est 20h33 sur France Info, la suite des informés avec vous Romain Desec.
20h21h, les informés, Romain Desec.
Les informés avec Alexis Poulain, cofondateur du site d'information Le Monde Moderne, Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point et Antoine Boulet, membre de l'agence de communication Havas. On évoquait la disparition de Steve Maillat-Canisso et la communication ou l'attitude tout du moins du gouvernement. Vous vouliez rajouter quelque chose, Jean-Michel Ribes, sur Édouard Philippe?
Oui, je trouve que, bon, on critique, je trouve que ce gouvernement a une chance d'avoir Édouard Philippe. Je le trouve un modérateur. Je trouve qu'il a quand même une fonction de communication, vous parlez tout à l'heure de confiance. Je trouve qu'il parle, je trouve qu'il a quelque chose d'apaisant et je trouve qu'il est un modérateur, il couvre les choses. Je trouve que c'est un homme de bonne compagnie et qui passe bien. Moi, j'aimerais bien l'engager au Théâtre du Rond-Point pour qu'il joue une de mes pièces. Je pense qu'il la passerait bien, il la ferait,
seconde
il la ferait
carrière.
Bien. Non, mais même, ça, je l'aimerais bien.
Il y a quelque chose qui... alors, une intervention du chef du département, pardon, le président du département, Philippe Grosvalet, département de Loire-Atlantique, qui invite les parlementaires à demander une commission d'enquête afin de faire la lumière, la transparence, comme il le dit, sur la mort de Steve Maillat-Canisso. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, Alexis Poulain?
Il y a déjà beaucoup d'enquêtes. Hein. Il y a déjà deux enquêtes de l'IGPN, une enquête de l'Inspection Générale de l'Administration. Est-ce qu'une enquête parlementaire aura les moyens d'apporter quelque chose de neuf, un regard neuf? Pourquoi pas, effectivement, pour avoir l'aspect politique en fait de cette affaire. Ça peut être nécessaire, mais j'ai l'impression que dans cette affaire, on voit très vite se mettre en place le jeu de la patate chaude, très franco-français, où c'est pas moi, c'est lui. C'est peut-être lui. Ah non, c'est pas moi, c'est lui, regardez.
Il y a un responsable, mais on ne connaît pas.
Il y a des responsables.
Des responsables.
Et évidemment, il y a une provocation quand le DJ relance la musique et qu'on lui dit de l'arrêter. Mais est-ce que cette provocation devait amener cette réponse-là? La réponse est non, évidemment. Mais on est dans un climat de violence.
Il y a le non-barriérage.
Il y a le non-barriérage.
Il y a le fait que. Mais c'est quand même aussi
un problème.
Stop. C'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas non plus raconter un film, s'imaginer un film de policier assoiffé de violence qui viendrait par plaisir tabasser des jeunes. Il y a aussi la situation très pratico-pratique.
La réponse est disproportionnée.
La réponse est sans doute, et l'IGPN, non pas l'IGPN, mais un membre d'un syndicat de police SGP,
dit,
je crois, l'avait dit, cette intervention est étonnante. Pour autant, si cette intervention avait eu lieu dans un lieu différent, c'est-à-dire pas à proximité de la Loire et barriéré,
c'est bien leur métier.
Je suis d'accord, mais ces conséquences n'auraient pas été telles. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter de faire ce que condamne Charles Péguy dans Notre Jeunesse, c'est-à-dire dégrader la morale en politique. Nous ne devons pas instrumentaliser. De ce point de vue, d'ailleurs, une commission parlementaire, à titre personnel, ne me semble pas une bonne idée. Je pense que les Français auraient le sentiment qu'on instrumentalise politiquement dans un sens ou dans un autre et que ça serait à nouveau une corrida, un spectacle. En revanche, je pense que solliciter des instances reconnues par tous comme la Ligue des droits de l'homme, et on peut rappeler ce qu'elle avait dit après les incidents du barrage de Sivens, elle qualifiait la situation d'un régime de violence policière qu'aucun citoyen attaché aux règles démocratiques ne saurait tolérer. Donc ça, je pense, quand une instance, il faut quand même qu'on soit conscient que, et c'est une fois encore, comme vous le disiez Alexis, pas pour critiquer la police, pas non plus pour critiquer le gouvernement, mais c'est une question, il faut être pragmatique, il faut s'organiser. Les gens ont besoin d'être protégés, et en même temps, on ne doit pas avoir peur de la police, un État ne peut pas tenir comme ça.
Est-ce que justement, il faut revoir les méthodes de la police? Elles ont été contestées ces derniers mois, notamment dans les manifestations des Gilets jaunes. Alexis Poulain.
Bien sûr, il faut les revoir. Vous avez eu un séminaire tenu par Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur, où il a refusé d'employer le terme violence policière, où il a invité des gens qui d'ailleurs ne dénonçaient pas ces violences policières. Donc il y a dans la doctrine un angle mort,
qui est celui-ci. Et on a bien vu, enfin la France a un problème avec les lanceurs de balles de défense, les LBD. C'est le seul pays d'Europe.
Il y a quelques années, la France était en pointe dans le maintien du.
Oui, mais alors là,
on oublie tout ça depuis.
Mais
on s'est pas mis à la page.
Non, mais la fin de cheminement, c'est
la glissade. Non, je crois qu'il y a une glissade avec les lois d'exception. Ça commence avec la loi travail. Cette violence policière commence là. Et où là où
avec
la
aussi une violence exacerbée du côté de certains manifestants.
Il y a toujours eu des manifestations, des black blocs, etc. C'est géré de manière très différente en fonction des pays. En France, c'est on répond à la violence par la violence. C'est pas une réponse puisque le rôle de la police c'est de protéger les populations.
C'est lui qui a commencé parce que d'un côté il y a des
c'est pas celui qui a commencé.
D'un côté, non, c'est la doctrine. De l'autre il y a l'État.
Oui. Je crois défendre aveuglément et sans aucune nuance la police, c'est pas lui rendre service. Je pense que absolument, ils ont toujours raison, c'est pas lui rendre service. C'est déshumaniser ce corps qui est non seulement utile et j'avoue même que le CRS de près est souvent attendrissant. Donc, je pense qu'il faut dire que ce sont des gens qui ne sont pas parfaits comme nous, mais de dire, ils sont pas rien, ils ont raison, c'était aucune faute de ça, c'est pas leur rendre service.
On peut être le lieutenant-colonel Beltrame qui donne sa vie pour sauver un otage, et puis dans le même groupe humain, et même avoir quelqu'un qui a la réalité.
Vous avez eu affaire à la police pour protéger le théâtre.
Je dois dire que je remercie, parce que du temps du préfet Grimaud, vous n'étiez pas né, mais j'ai jeté quelques pavés du temps du préfet Grimaud sur nos amis policiers, et je dois dire que quand ces charmants amis de Civitas nazis, catholico, machin, sont venus nous menacer de mort quand on jouait Golgotha Picnic, m'ont enserré et m'ont renversé des tonnes d'extrêmement de chiens mis dans des cajots. Merci aux policiers d'avoir été là.
Un mot, il y a plusieurs rassemblements qui sont d'ores et déjà annoncés en hommage à ce jeune homme, Steve Maya Canisso. Est-ce qu'il faut s'attendre à peut-être des débordements, des violences ou pas du tout, au contraire, ça se passera très bien. Difficile à dire.
Non, qu'est-ce que vous voulez qu'on en sache? En revanche, ce qui est sûr, c'est que il faut
ni oubli ni pardon, c'est ce qu'on voit. Le message qui est relayé dans les.
Il faut que ce climat de violence cesse. Je pense aussi aux permanences parlementaires attaquées qui sont à certains égards tout aussi horribles parce qu'on attaque la démocratie et le fonctionnement normal de la démocratie. On doit pouvoir se parler dans notre pays sans violence. Ça n'est pas possible.
Alexis Poulain, c'est encore le cas? On peut se parler sans violence?
Pas en ce moment, non. Le climat de violence, il est installé aussi par un pouvoir qui tient
non,
à la
Non, on
ne
peut pas
la justifier
l'injustifiable.
Mais, regardez,
de violence enfin,
c'est ce que fait le ministre
jamais,
Castaner, et c'est
jamais,
bien le cœur du problème,
jamais.
C'est qu'il justifie
c'est
l'injustifiable.
Ministre... Non, mais bah, il ne s'agit pas de vos plus bêtes.
Il faut de la justice. Sans justice, pas de paix sociale.
Ouais, c'est pas une question de paix sociale, en l'occurrence.
On terminera sur ces mots. Merci, Alexis Poulain. On va s'intéresser au compteur Linky dans notre prochain débat, dans un peu moins de 2 minutes, après l'info 20h40. Sois Zigbourg.
Le trafic des TER perturbé en Bretagne ce soir après l'agression d'un agent au niveau de la gare de la Boinière. L'homme a été frappé au visage par 3 voyageurs. Il a dû être pris en charge par les pompiers. Plusieurs trains entre Rennes et Saint-Brieuc ont jusqu'à 1h10 de retard. D'autres ont été supprimés. La SNCF va porter plainte. Les critiques pleuvent après la découverte du corps de Steve Maya Canisso dans la Loire et le rapport de l'IGPN qui dédouane les forces de l'ordre. Philippe Grosvalet, le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, appelle tous les parlementaires de son département à demander une commission d'enquête. Les sols sont encore brûlants à Générac dans le Gard. 350 pompiers et 2 canadaires toujours mobilisés pour éviter toute reprise du feu. 500 hectares de végétation sont partis en fumée. Christophe Castaner était sur place tout à l'heure. Il a annoncé la commande de 6 avions bombardiers d'eau. Boris Johnson continue sa tournée du Royaume-Uni après l'Écosse hier. Le Premier ministre britannique est en Irlande du Nord où il tente de faire passer sa stratégie sur le Brexit, à savoir sortir de l'Union européenne le 31 octobre avec ou sans accord. Et puis les trottinettes électriques n'ont plus le droit de cité sur les trottoirs déjà interdites de circulation à Paris. Elles le sont désormais de stationnement. Seuls les emplacements dédiés seront autorisés. La mairie veut en construire 2500 d'ici la fin de l'année.
France Info.
20h, 21h, les informés, Romain Desec.
Avec les compteurs Linky, qui appartiennent à Enedis, au centre d'une controverse une fois de plus, hier le tribunal de Tours a demandé le retrait de 13 compteurs installés chez des particuliers pour des raisons médicales. Les juges estiment qu'il y a bien un lien de cause à effet entre la pose du compteur électrique et des pathologies telles que des picotements dans les bras, de l'insomnie ou encore de la fatigue. Écoutez la réponse de l'avocat d'Enedis, maître Laurent Martinet.
Nul
nulle part. Vous n'avez de démonstration aujourd'hui de part des autorités, des entités nationales, d'un lien de causalité au terme duquel il y aurait une aggravation donc de la pathologie de ces personnes. En réalité, la technique qui est utilisée, c'est la même technique que ce que vous avez aujourd'hui dans les volets roulants, au niveau de l'Internet et tout. C'est exactement la même chose. Et même les études dont on dispose sont des études qui montrent qu'en termes de force d'onde, je dirais, si on peut l'appeler ainsi, c'est beaucoup moins fort que ce que vous avez dans votre Internet chez vous.
Donc si je résume, pas d'études fiables sur la nocivité, fermez le banc ?
Oui, enfin, je crois qu'on peut aujourd'hui parler, sur ce sujet comme sur d'autres sujets, de ce que j'appellerais moi un éco-obscurantisme. Voilà, que ce soit sur même sur des sujets beaucoup plus polémiques, par exemple comme le glyphosate, non pas sur son impact environnemental, mais sur son impact sanitaire, sur un nombre très important de sujets, ce n'est plus la science. C'est-à-dire que les gens font de la science sélective. Donc moi, sur les OGM, je le prends ce que dit la science, mais sur le Linky, je le prends pas. Sur le réchauffement climatique, je le prends, mais sur le glyphosate, je le prends pas. La science, c'est la science.
Pourtant, il faut prendre en compte leur malaise, parce qu'il y a un malaise autour de ces compteurs.
Prendre en compte le malaise ne donne aucune indication sur la cause du malaise. Donc là, on dit et on redit que ces compteurs Linky envoie des ondes d'une force équivalente à ces relais que nous avons chez nous. C'est quand vous placez un relais dans une prise électrique pour relayer votre box, ça ne pose aucun problème à personne. Donc il y a une sorte de fantasme d'intrusion dans le domicile. Bon, voilà, moi je crois que malheureusement...
Il y a aussi ce fait que Enedis installe de force ses compteurs et ne laisse pas le choix finalement. C'est ça aussi qui pose problème, Alexis Poulain.
Oui, je trouve ça quand même assez dingue, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Alors on nous rabâche tout le temps cette concurrence libre et non faussée qui fait qu'on a le choix justement en tant que consommateur. Et là on n'a pas le choix. Il faut absolument un compteur Linky. C'est dingue. Où est la concurrence? Alors s'il y a un compteur connecté, qu'il y en ait 10, à ce moment-là qu'on ait le choix. Mais le fait qu'on nous impose ce compteur, déjà ça me pose problème. Et ensuite, il consomme plus d'électricité. Le coût des ondes, alors reste à voir, sans doute il y aura des études, des contre-expertises, des machins, enfin on gagne du temps. Et derrière, mais c'est quoi ce monde où on va connecter son frigo à son lave-vaisselle, à son compteur, à son volet roulant? Enfin, on s'en fout. La 5G, l'internet bas débit,
c'est pour faire des économies, selon Enedis.
À quoi ça sert? Mais bien sûr, c'est pour virer des emplois de gens qui font le relevé, c'est pour arrêter sur le déclaratif, avoir moins de courriers, enfin bref, c'est pour faire des économies, pour gagner de l'argent. Pour Enedis, c'est de l'argent. C'est tout. Et toute cette folie de l'objet connecté, je vois pas. On en est à la couche connectée, la brosse à dents connectée. Non mais attendez, ça sert à quoi, bordel?
Jean-Michel Ribes.
Mais non, moi je trouve ce sujet passionnant. Je trouve que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses beaucoup plus nocives que les contrôleurs Linky qui envoient des ondes terrifiantes. Par exemple, Trump et maintenant Boris Johnson. Je déconseille l'homme politique blond mal coiffé.
Manifestement, plus éloignées, on va dire, ces ondes.
Non, mais enfin, c'est quand même plus important que le compteur Linky.
Et donc, ça, vous n'avez pas de sujet.
Si, il y a un sujet, mais parlons des grands sujets, même si Monsieur Trump n'est
pas...
Parce
que ça concerne des millions de foyers, des personnes...
Oui, les gens qui sont contre les compteurs entière, Linky, ça concerne des micro-personnes.
Mais la planète entière, et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix des compteurs Linky, comme le disait monsieur, mais on n'a pas le choix non plus de se taper Trump et bientôt Boris Johnson. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je trouve que là, en effet, il faudrait demander à un tribunal de les virer, de les accuser, de les débrancher,
déconnecter. Jean-Michel, vous êtes Trumpo-sensible, vous n'êtes pas électro-sensible, vous êtes
Trumpo-sensible. Je suis anti-Trump. Il y a un moment, je sais que la bêtise, on ne peut pas lutter contre, je sais que même ça rajoute un petit charme à certaines personnes, mais quand c'est trop, à un moment collé au mur, on est obligé de le dire, de hurler, même si on va se faire écraser.
Moi, je pense que la bêtise, elle est aussi dans ces objets connectés. Enfin, quand on arrive...
Mais la brosse à dents connectée,
ça ne vous choque pas, vous?
Non, mais la brosse à dents, il ne s'agit pas de brosse à dents connectée. Il s'agit de dire que le travail de relevé de compteur est un travail répétitif, pas épanouissant, et qu'il vaut mieux préparer nos jeunes générations à faire d'autres métiers plus intéressants.
Alors ça, c'est un beau débat. La destruction subsaharienne de l'emploi, on est loin encore d'avoir ces nouveaux
emplois. Les progrès de la marine à vapeur ont causé énormément de tort à tous les métiers de la marine à voile.
L'imprimerie.
Antoine, vous voulez pour en revenir sur ces compteurs électriques et ces personnes, même si elles sont peu nombreuses.
Est-ce qu'on pourrait ne pas revenir sur les compteurs électriques?
Est-ce qu'on peut passer au débat suivant?
Dans 4 minutes, on va changer de sujet. Est-ce qu'il ne faut pas appliquer le principe de précaution pour ces personnes qui souffrent?
Le principe de précaution, c'est le principe de la peur.
On l'appliquerait à travers par moment.
C'est le principe de l'inaction, c'est le principe de l'inertie. Moi, je suis assez favorable au principe d'innovation et au fait de dire, franchement, mobiliser du temps, mais que ce soit
au principe du libre arbitre aussi
sur d'autres. Ouais. Non, mais le libre arbitre, on choisit pas la norme, par exemple, recevoir la télé dans une certaine norme ou le gaz dans une certaine norme. Il y a des biens, des monopoles naturels. On peut pas d'un côté, ça m'étonne chez Alexis Poulain d'ailleurs, être favorable à des théories intéressantes de monopoles naturels et dire mais chacun devrait choisir son compteur. C'est complètement chacun devrait aussi
non,
choisir sa fréquence.
Je mets le doigt là où est le problème. C'est-à-dire qu'on impose un compteur alors que c'est pour la concurrence.
Enedis, non mais Enedis. Vous confondez deux choses. Il y a EDF,
il y a les infrastructures, et puis il y a les vendeurs.
Il y a les vendeurs d'électricité.
L'électricité.
Mais les infrastructures, il a toujours été question. Enfin,
est-ce que vous pouvez faire un livre là-dessus? On le lira. On arrête de parler de ça.
On calera une armoire avec.
Non, mais le Linky. Non, mais ça en dit long. Je pense sur le rapport, effectivement, un, au progrès. Est-ce un progrès? L'innovation à tout prix. Pourquoi? Ce coût des objets connectés.
La survie, c'est de lutter contre les progrès du progrès.
Voilà. Voilà. Et ce côté-là.
Maintenant, on peut passer à autre chose.
Et Linky, ce nom est stupide. Voilà.
Ça c'est intéressant sur le plan de la sémantique. Moi, je veux bien qu'on parle de ça. Ah,
Linky, c'est quoi? C'est un lapin stupide sous ecstasy là qui rentre chez vous et qui fout des ondes partout. Il y a Linky qui est dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est de la faute des communicants qui ont inventé cette marque. Ça m'étonnait. Ça m'étonnait qu'on n'en vienne pas là.
Vous en pensez quoi de Linky? C'est un nom stupide.
Oui, je sais pas qui a fait ça. Je veux pas me mettre mal. Non, c'est un nom qui, en tout cas, implique. Par rapport à l'ambiance culturelle qu'il indique, qu'il infère, qui insiste sur le côté nouveau et déstabilisant, un peu inutile. Je suis d'accord avec vous. Alors qu'après tout, c'est qu'un compteur électrique.
Oui. Alors, maintenant,
qui crée des problèmes. 5% des Français sont électriques.
Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé autrefois pour un opérateur téléphonique. Et un jour, crise, à Ville d'Avray, on nous dit il y a des gens, des électrosensibles, qui disent il y a un relais qui a été installé sur le toit de l'immeuble et j'ai des fourmis et des maux de tête. Le relais, l'antenne relais n'était pas activée. Voilà. Donc il y a aussi
une sorte de paranoïa aussi autour
C'est pas paranoïa, c'est des effets psychologiques et autres. Et moi, la science. Quand la science dit que c'est mauvais pour la santé, on le fait pas et on est intransigeant avec ça. Quand la science dit que c'est pas mauvais pour la santé, on laisse ça traiter par les gens qui doivent les traiter, c'est les psychologues.
C'est la traduction d'une directive européenne.
L'installation de Linky, oui, bien sûr. Oui, enfin, elle dit pas que des conneries, les directives européennes. Elle fait aussi des choses utiles. Voilà, ça va maintenant.
Alexis Poulain, dernier mot. Linky? Vous en avez un, vous? Absolument.
Qui en veut, c'est gratuit. Bon, acheter,
je vous ai compris, messieurs, on va changer de sujet. On va s'intéresser à Caster Semenya, un sujet très complexe, cette sud-africaine double championne olympique, hein, s'il vous plaît, du 800 mètres, et qui ne pourra pas participer au prochain mondiaux d'athlétisme qui se déroule à Doha, au Qatar, à la fin du mois de septembre. Il est 20h50, les principaux titres avec Sozy Bourg.
Une manifestation en hommage à Steve Maya Canisso tout à l'heure à Toulouse. Des centaines de personnes réunies et quelques échauffourées. Le corps du jeune homme a été retrouvé lundi. Le rapport de l'IGPN sur sa disparition dédouane la police. L'opposition critique la politique de maintien de l'ordre du gouvernement. Ils étaient soupçonnés de préparer des attentats en France. 3 hommes, dont 2 détenus, ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, criminels. Ils ont été emprisonnés. On ne sait pas quelle cible était visée. Une 10e permanence La République En Marche vandalisée, celle de la députée du Val d'Oise Cécile Rilac, située à Herblay-sur-Seine. Des inscriptions taguées dans la nuit. L'élu accuse les gilets jaunes. Le Conseil d'État demande au gouvernement d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Il lui donne 6 mois pour pallier l'insuffisance de l'administration. Une victoire en demi-teinte pour les associations de défense des migrants. Elles demandaient, elles, le raccourcissement des délais de prise en charge. 15 personnes mises en quarantaine au sud Kivu, en République démocratique du Congo. 7 venaient de Goma, où un 2e cas d'Ebola a été détecté hier. Le malade est mort ce matin. Et puis Louis de Funès a de nouveau son musée dans le Var, cette fois à Saint-Raphaël, tout près de Saint-Tropez. 350 objets et documents de l'acteur exposés, des souvenirs de tournage, des extraits de films, des interviews. Le premier musée en hommage à sa carrière avait dû fermer en 2016.
France Info.
20h, 21h, les informés. Romain Desec.
Elle s'appelle Caster Semenya, elle est sud-africaine. Elle est double championne olympique du 800 mètres, triple championne du monde sur cette distance. Mais elle ne pourra pas participer aux prochains mondiaux à Doha, au Qatar, car elle souffre d'hyperandrogénie, c'est-à-dire qu'elle produit trop de testostérone par rapport à la moyenne et surtout par rapport aux autres athlètes féminines. Avant de vous entendre, messieurs, les explications de Fabrice Abgras du service des sports de France Info.
Caster Semenya espérait pouvoir défendre son titre de championne du monde du 800 mètres, mais la Cour suprême suisse l'a privé de cette chance. Le tribunal fédéral avait pourtant, début juin, temporairement suspendu le règlement de la Fédération internationale qui, depuis le 8 mai, obligeait les athlètes ayant une différence de développement sexuel à prendre des médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone afin de pouvoir courir sur des distances allant du 400 mètres au mile. Décision qui avait permis à Caster Semenya, il y a un mois, de remporter le 800 mètres de Stanford en Californie. Mais la Cour suprême suisse, en prenant cette décision, autorise de nouveau la Fédération internationale à appliquer son règlement. Caster Semenya se dit profondément déçu, mais dans un communiqué, la double championne olympique affirme qu'elle continuera son combat pour le respect des droits de toutes les athlètes concernées par l'hyperandrogénie. La Cour suprême suisse a pris cette décision en attendant de se prononcer sur l'appel de Caster Semenya concernant ce fameux règlement de la Fédération internationale qu'elle qualifie de discriminatoire.
Est-ce que cette décision est discriminante, Alexis Poulain ?
Elle est particulière. Effectivement, c'est un cas à part.
Qui n'est pas unique dans l'histoire du sport. Il y a déjà eu des cas. Hein.
Voilà, qui n'est pas unique. Mais on choisit de le gérer en finalement en forçant cette personne à prendre un traitement chimique pour changer en fait son être. On a des débats sur le genre, on a des débats sur le sexe. Enfin, on a plein de débats. Et là, pour le sport, en fait, on va obliger quelqu'un finalement à faire ce qu'on faisait il y a très longtemps et qu'on a arrêté de faire. Hein. Vous savez, quand vous aviez des androgynes, eh bien, on choisissait le sexe pour eux hein, avant qu'ils aient de force. On est en train de faire la même chose. Avec des lois pour cette athlète qui, elle, n'a pas choisi. Et visiblement, ça ne pose pas de question à la Fédération d'athlétisme. Il y a un vrai cas de réflexion et philosophique même sur pourquoi le sport serait en dehors de ce qui se passe dans la société
aussi.
Aujourd'hui. Sans doute, des enjeux de sponsors, des enjeux bien sûr de d'athlètes aussi qui peuvent porter
plainte. Et d'équité sportive, parce que les autres athlètes féminines peuvent dire, écoutez, moi je trouve ça pas juste.
Oui, c'est ça, c'est par rapport à ça, en disant quel est le rapport. Mais alors, le fait qu'elle ait cette aptitude et qu'elle puisse courir, enfin, je comprends pas, je pense que c'est un débat qui ne fait que commencer, parce qu'elle va sans doute faire appel, enfin, elle va pas s'arrêter à ça, ça m'étonnerait.
Jean-Michel Rime.
Écoutez, que dire ? Oui, le problème, c'est que dans le sport, il y a ces règles qu'on peut trouver stupides, c'est qu'il y a des compétitions féminines et des compétitions masculines. C'est sûrement quelque chose d'un peu excluant. À partir du moment où il y aurait simplement des compétitions, peut-être que ce cas ne se présenterait pas. Moi, je me disais toujours que pour des tas de gens qui aujourd'hui ont la liberté de choisir leur sexe, d'être transsexuels, etc., je sais pas pourquoi on n'organiserait pas aussi pour eux une catégorie de sport, je sais pas. Quelqu'un qui, par exemple, partirait, ferait un 1500 mètres femme et arriverait homme en gagnant. Parce qu'il y aurait eu un métabolisme qui changerait. Qu'est-ce qu'on ferait? Je crois que là, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, il faut prendre en compte, quelque chose que la société prend en compte. Et heureusement, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que deux genres. Il y en a plusieurs. Et il y a plus. Et d'ailleurs, je crois que dans beaucoup d'endroits, on devrait un tout petit peu se poser la question et arrêter cette discrimination.
Antoine Boulet.
Oui, elle est particulière et je crois que c'est l'occasion aussi pour la société tout entière, c'est d'ailleurs un de ses combats, de reconnaître ces cas qui sont certes ultra minoritaires, mais ce n'est pas parce qu'ils sont ultra minoritaires qu'ils ne doivent pas être considérés et respectés. Son cas est très particulier puisqu'elle se définit elle-même comme intersexuelle, c'est-à-dire que ses organes génitaux sont en quelque sorte à mi-chemin entre les organes génitaux majoritairement répartis, entre ceux de l'homme et ceux de la femme que nous connaissons pour notre grande majorité, mais même au niveau chromosomique, elle a un chromosome XY, c'est-à-dire qu'elle a priori plutôt un chromosome mâle. Et pour autant, elle est considérée et elle se considère elle-même comme une femme. À partir du moment où elle est une femme, dire à une femme, vous êtes trop masculine, trop bien bâtie, trop ceci, trop cela, donc vous ne pouvez pas concourir, c'est comme si on disait à un basketteur, ah non, vous êtes trop grand, vous risquez de mettre plus de paniers que les autres, ou à un sauteur à la perche, vous êtes trop grand, vous risquez de sauter plus haut que les autres. Ben oui, il y a une inégalité dans le sport. Moi, c'est comme ça. Hein. Moi, mon temps au 100 mètres, c'est
13 secondes. Elle est trop forte, estime certaines athlètes qui courent avec elle et qui n'ont aucune chance de l'emporter.
Oui, non, mais aucune chance de l'emporter pour le moment. Il y a comme ça. On a eu des champions qui écrasent tout. jouent sur leur passage. C'est la vie. Qu'est-ce que c'est que cette idée de normer comme ça? Et ça nous interroge effectivement sur ce qu'est finalement la distinction entre les caractéristiques proprement physiologiques du sexe. Et ces cas limites finalement nous interrogent tous sur ce que nous sommes. Sur quel est mon sexe? Quel est mon genre? Comment je le performe? Et finalement, comment une société harmonieuse dans cette diversité de situations, y compris les situations minoritaires? Parce que les situations minoritaires, il ne faut pas les considérer comme des sortes de monstres de foire. En fait, elles interrogent la manière dont vous jugez de la dignité, de la décence d'une société. C'est justement la manière dont elles traitent les gens qui sont aux bornes, aux limites. Et de ce point de vue-là, les institutions sportives, certainement, ne se grandissent pas en agissant de la sorte.
Non, puis il y a de l'injustice partout. La justice, voilà. Elle n'est pas uniquement sur le chromosome XY, il y a de la justice partout. Dans un bureau, il y a quelqu'un qui est plus ceci, plus cela. À ce moment-là, on ne peut pas normer, parce qu'à ce moment-là, on peut dire, monsieur, vous devez partir d'en face de moi dans le bureau, parce que je m'aperçois que vous parlez plus vite au téléphone, et que donc c'est anormal, moi je n'arrive pas à répondre comme vous, donc vous devez partir.
Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? On la laisse courir, ou alors on crée une catégorie d'athlètes?
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça pose réflexion, et moi je trouve que ça va permettre peut-être d'avancer sur une juste réponse. Partition et une reconnaissance, en tout cas, quand vous dites c'est une minorité, mais on sait bien que les minorités sont quand même la base de ce qui va devenir une majorité, et c'est important
Alexis Poulin. C'est une chose aussi, c'est que la nature est inégalitaire. Il n'y a pas d'inégalité, par définition, et qu'un champion, il est de toute façon hors norme, quel que soit son sexe et son genre. Donc, voilà,
en après, cas, effectivement... on la laisse courir, et deux, je trouve qu'on s'excuse, les informer ce soir, en quelque sorte, de n'être que des hommes. Et parce que heureusement que les présentatrices,
il y aura trois femmes vendredi.
Heureusement que les présentatrices du journal étaient des femmes, parce que ça passe aussi toutes ces questions d'égalité.
Il y en a d'ailleurs une qui vient d'entrer dans le studio.
Et nous avons des efforts à faire là-dessus. Merci à vous trois, Antoine Boulay, membre de l'agence de communication Havas, Alexis Poulin, cofondateur du site d'information Le Monde Moderne, et merci à vous, Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point. Avec une actualité, ce sera le 18 septembre 2019, donc à la rentrée.
Oui, je devais le faire à New York, mais je le fais à Paris. J'avais fait une série, peut-être que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Palace. On en a fait une adaptation scénique qu'on va faire, non pas au Théâtre du Rond-Point, mais au Théâtre de Paris. Et j'espère que ce sera une issue de secours face à cette société parfois un peu ennuyeuse.
Eh bien, nous serons là. Merci à vous tous d'avoir suivi Les Informés.